qui est le plus étoffé, si je peux dire, du moins de ce qui nous est révélé historiquement. Et il y a beaucoup de choses. Et même ce soir, on va même pas se rendre encore à la fameuse bataille de Gédéon qu'on connaît bien avec les 300 hommes de Gédéon. Mais quand même, la dernière fois, on s'était laissé justement avec l'introduction de la vie de Gédéon où ce que Dieu transforme nos vies. Dieu transforme ma vie, Dieu transforme nos vies. Et si on a l'impression que de ne pas être capable de faire quelque chose, si on a l'impression que d'être démuni, ben Dieu il est content de ça parce qu'en même temps, en mettant ses mains dans nos vies, il nous transforme. Et vous vous souvenez, Gédéon, il était en cachette en train de battre le froment à l'abri des Madianites. Et puis Dieu apparaît, l'ange de l'Éternel apparaît puis lui dit « Dieu est avec toi, vaillant héros ». Et il n'était pas nécessairement encore un héros, du moins Dieu allait le préparer, mais Dieu veut nous transformer. Comme on avait vu voilà quelques mois, les héros de la foi, je crois fermement que Dieu nous donne cette possibilité-là aussi que d'être des héros pour la foi, par sa main dans nos vies, de ce qu'on va lui laisser comme accès dans nos vies aussi. Et Dieu fait des héros. Et héros, on peut penser à toutes sortes de guerres qu'il y a eu, et puis chaque armée a eu leurs guerriers, leurs héros, et c'était d'une façon très orgueilleuse. J'imagine que les héros se valorisaient. Dans le cas de Gédéon, c'est parti avec beaucoup d'humilité. Dans notre relation avec Dieu, ça commence avec beaucoup d'humilité, où ce qu'on donne à Dieu nos vies, et qu'on lui demande justement de la transformer et de nous utiliser comme ce qu'il a fait avec Gédéon. Alors, c'était un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, et on continue ce soir que ce sujet avec Gédéon, que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec nous. Et Israël était retourné sous son péché. Pendant 7 ans, il a été opprimé par les Madianites, qui étaient des nomades. Et puis, ils arrivaient comme les sauterelles. C'était des nomades. Alors, ils arrivaient dans le pays. Ils s'installaient dans le pays. Puis, finalement, ils se nourrissaient avec ce que le pays d'Israël avait fait cultiver. Et alors, ils ont été en disette et en oppression de par les Madianites. Dieu a envoyé un prophète. Israël a crié à Dieu. Dieu a envoyé un prophète aussi pour parler en leur répétant les choses que Dieu leur avait déjà dit. « Vous m'avez abandonné. Vous avez commencé à servir d'autres idoles. Puis, revenez à moi. » Et finalement, Dieu, on voit comme un peu le spot qui descend spécifiquement sur Gédéon. Puis avec la vie de Gédéon, on voit comment est-ce que Dieu prépare la délivrance, comment Dieu prépare l'homme qu'il va utiliser aussi pour la délivrance. Et c'est très bien de voir l'exemple de Gédéon. Gédéon était à l'abri, comme je disais, Dieu est apparu. Gédéon était un homme pauvre. Il était la famille la plus pauvre de sa tribu. C'était le plus petit de ses frères. Il aurait eu des gens bien plus humainement placés que lui pour être un délivreur. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Puis Dieu lui a dit, « Va avec quoi? Va avec la force que tu as. Et puis moi, je vais t'accompagner. Et moi, je serai avec toi. » J'aimerais qu'on fasse un mot de prière. On va tourner dans Juges 6. Pour voir la suite des événements. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te glorifier premièrement, parce que tu es notre Dieu, tu es celui, Seigneur, pour qui on est rassemblés ici. C'est toi, Seigneur, qu'on veut connaître. C'est toi qu'on veut voir, qu'on veut apprendre, Seigneur, à savoir comment mettre ta parole en pratique dans nos vies. On veut, Seigneur, une relation de plus en plus étroite avec toi. Et en même temps, on veut comprendre l'exemple de Gédéon, comment est-ce que tu as utiliser cet homme-là, Seigneur, pour ta gloire, pour ton service. Et on croit que tu veux faire la même chose aussi avec nous pour faire avancer ton royaume. Et on te prie que justement ta parole devienne d'une façon claire, évidente dans nos vies, pour qu'on la mette en pratique. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie. Amen. OK, vous avez trouvé Juges 6. On va commencer avec les versets 17 à 24. J'ai résumé rapidement ce qui s'était passé dans les versets précédents, sans les relire. Et on va reprendre exactement là où on avait arrêté la dernière fois. On voit que Dieu est en train de préparer un héros. Dieu fait des héros. Dieu les prépare. Et Dieu va confirmer l'appel à son héros, qui est Gédéon. Puis Gédéon, il va réclamer un signe. Alors, quelqu'un qui voudrait lire les versets 17 à 24 pour commencer. Volontaire? Lisette. OK, on va arrêter là. J'avais dit jusqu'à 24, mais on va arrêter là pour l'instant, à 21. Gédéon, il dit, verset 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, l'ange de l'Éternel, il est là et est en train de parler à Gédéon. Va avec la force que tu as. C'est toi que je vais utiliser pour délivrer mon peuple. » Et là, Gédéon, il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. J'ai besoin d'un signe. » Pourquoi est-ce que, c'est une question que je pose, pourquoi est-ce que Gédéon voulait un signe? Ce soir, on va voir deux sections des Écritures avec Gédéon où il y a des signes qui sont réclamés. Il voulait être sûr que ça soit de l'Éternel. C'est ce que tu allais dire aussi, Paul. Pourquoi Gédéon voulait un signe? Mais la question de Gédéon, elle est claire. Si on continue à la fin du verset 17, « Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui parles. » Je veux un signe, Seigneur, pour me montrer que c'est toi qui parles. Et le signe que Gédéon veut, qu'est-ce qu'il est allé préparer? Les versets suivants nous montrent qu'est-ce qu'il est allé préparer. Un peu plus tard, la toison. On a vendu le punch trop vite. Non, mais la toison, on va voir exactement cette même idée-là, un peu plus tard dans quelques versets. C'est son offrande. OK, pourquoi est-ce qu'il est allé préparer une offrande? Pourquoi est-ce que pour lui, c'était un signe valable de savoir que ça, c'est toi qui... C'est vraiment Dieu qui me parle. Qu'est-ce qu'il avait eu comme idée? Oui. 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 Alors, il voulait savoir, est-ce que je suis vraiment devant Dieu? Est-ce que je suis en train de parler avec lui face à face? Et je veux savoir la parole que tu me dis, là. Parce qu'en fait, ce que Gédéon est en train de se faire demander n'est pas rien humainement. Ça demande beaucoup de foi, beaucoup de courage. Et là, Dieu, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que je suis vraiment devant toi? Parce que finalement, si c'est Dieu qui m'envoie, puis Dieu me dit, je vais être avec toi, ben là, je suis rassuré. Mais si c'est pas Dieu qui est devant moi, et puis je m'en vais là-bas, ça se peut que finalement c'est à ma mort que je m'en vais courir. Et bref, Gédéon est allé préparer son offrande. Il dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Gédéon est allé préparer une offrande. On voit les versets 19, par exemple. Il est allé préparer un chevreau, un éphod de farine, des pains sans levain. Il a mis la chair dans un panier, le jus dans un pot. Puis il l'a apporté sous le térébinthe où ce que Dieu était venu le rencontrer. Et puis il lui présenta. Et puis Gédéon, il a présenté son offrande devant lui, le placé sur une roche, en plaçant le chevreau, en plaçant le jus par-dessus, en plaçant les pains sans levain. Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a fait? Il manquait juste le four. Comment? Il l'a fait cuire. Il l'a accueilli. Et il l'a fait cuire. Bien, c'était un holocauste. Mais la différence, qui est, évidemment, j'imagine qu'il y avait un élément spectaculaire là-dedans aussi. Là, parce que l'ange de l'Éternel, on peut imaginer qu'il était probablement sous la forme d'un homme. Là, et que s'il apparaît sous la forme d'un homme, il y a un bâton dans sa main. tu te prétends être Dieu puis être avec moi. Et l'homme qui est devant lui met son bâton sur ce qui est apprêté, sur le pain. Et puis finalement, ça prend en feu. Il le prend, il l'accueille. Et seulement Dieu va accueillir ces offrandes-là, ces holocaustes-là. Un ange, même un ange qui appartient à Dieu, et particulièrement un ange qui appartient à Dieu, n'acceptera pas l'adoration. On a un exemple dans l'Apocalypse. Alors, les anges n'auraient pas accepté l'adoration, cette offrande-là. Dans le cas de l'ange de l'Éternel, c'est lui. Et le signe était clair. Quelle attitude Dieu avait envers Gédéon qui lui avait demandé un signe? Gédéon, il dit, attends un peu, là, je veux un signe. Il était patient. Pourquoi patient? Ouais. C'est ça. Dieu a pris le temps. La dernière fois qu'on avait regardé ce passage-là, j'étais allé un petit peu plus loin avec une phrase justement qui me touche beaucoup, justement cette idée-là, que Dieu, il a attendu, et une phrase, je l'ai mis en rose dans ma Bible, là, et puis je trouve que c'est une phrase qui révèle beaucoup du caractère de Dieu sur plusieurs aspects, pas juste le fait que Dieu a attendu Gédéon qui est parti préparer ces choses, mais la phrase que Dieu dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes ». Je trouve que c'est une phrase qu'on peut appliquer de Dieu envers son peuple, constamment dans les juges, où ce que Dieu, je vais t'attendre jusqu'à temps ce que tu reviennes. C'est le caractère de Dieu, où ce que Dieu veut attendre ses enfants, et il les veut près de lui. Et dans le cas de Gédéon, si on ramène ça vraiment au contexte précis de Gédéon, Gédéon s'en va faire ses choses, et Dieu l'attend, et il l'attend là. Et c'est particulier de voir l'être le plus important qui existe, c'est-à-dire Dieu, a pris le temps d'attendre que son futur héros ou son vieillant héros revienne parce qu'il veut un signe. Quelle a été l'attitude, d'autres éléments que vous voulez ajouter, quelle était l'attitude de Dieu envers Gédéon? Est-ce qu'il l'a accusé, condamné? C'était quoi son attitude finalement face à Gédéon qui lui demandait un signe? Oui, c'est vrai qu'il a besoin d'être rassuré. Quoi d'autre aussi? Oui, je voulais le rassurer. Dieu est en train de préparer Gédéon pour lui faire un plein de courage. Et il y a eu une période, faut le prendre, je pense, vraiment dans son contexte aussi pour expliquer ces signes-là qui sont apparus. Parce qu'il n'y a pas eu des signes non plus à toutes les époques. C'est arrivé à quelques occasions. Dans le cas de Gédéon aussi, on comprend qu'il est arrivé qu'il y a une situation où il y a une oppression qui est forte. Gédéon, j'imagine, se sent démuni, comme on dit. Il se sent faible, il se sent pas comme un vaillant héros. Puis il a besoin, vous vous souvenez, Gédéon, quand que Dieu lui a dit « Dieu est avec toi », puis la phrase qu'il a dit, c'est « Ben, Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que toutes ces choses-là nous arrivent si Dieu est avec nous? » On a plutôt l'impression qu'il nous abandonne. Et là, je crois que Dieu vient plutôt confirmer le fait que « Gédéon, je t'ai dit, je vais t'accompagner, puis je vais être là. Je vais t'accompagner. » Puis il est en train de fortifier la foi, il est en train de donner du courage à Gédéon. Et on voit l'attitude de Dieu qui est condescendant pour son fidèle serviteur qui est en train de le former, en train de devenir un héros. Comment est-ce que Dieu a confirmé sa parole? Bon, on l'a dit tantôt quand que Dieu a accueilli l'offrande que Gédéon lui apportait. Dieu a confirmé sa parole et j'imagine rassuré aussi Gédéon en voyant que c'est bien Dieu qui me parle. On va voir la suite des versets. Mais les signes sont un clin d'œil de Dieu qui confirme la parole. On pourrait citer par exemple Jean, sans parler longtemps des signes ce soir, mais l'évangile de Jean, vous connaissez déjà l'expression de miracle qui veut dire signes, qui sont des signes pour confirmer la parole et qui n'est pas une révélation supplémentaire ou qui vient donner, c'est ça, une autre révélation, mais elle vient confirmer la parole qui a été dite. Alors Dieu a dit une parole à Gédéon et Dieu a confirmé sa parole par un signe. Et c'est ça qui fortifiait la foi de Gédéon. Et les signes ne remplacent pas, c'est ça, la parole. Ce matin, dans ma classe, on citait Philippiens 4, 6 et 7. Est-ce que vous connaissez par cœur? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gédéon avait ce moment d'inquiétude, de faiblesse. Dieu, on peut en avoir aussi de ces moments-là, où c'est qu'à un moment donné, où on se dit à Dieu, « Dieu, j'ai l'impression de ne plus savoir quoi faire. J'ai l'impression de ne plus être capable. » Et ce que Dieu nous dit, c'est « Dis-moi-les tes inquiétudes. Dis-moi-les par des prières, des supplications, des actions de grâce aussi. » Puis qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'intelligence, que la paix que Dieu vient nous donner est au-delà de l'intelligence où ce qu'on aurait essayé de calculer, puis de machiner, puis tout placer, on n'aurait pas été capable de se satisfaire d'une paix qu'on aurait accomplie de par nous-mêmes. Mais Dieu vient nous donner sa paix. Et c'est un mot important dans la suite de l'histoire aussi avec Gédéon. La paix, quand on est troublé, quand on a peur, quand notre foi défaille, Dieu veut venir nous donner sa paix. Dieu veut nous donner la confiance, nous rassurer. Et des héros de la foi, ils ont manqué de confiance, ils ont manqué de courage à certains moments donnés, mais en même temps, Dieu veut les fortifier. Dieu veut nous fortifier, Dieu veut nous encourager. On va lire la suite dans les versets 22 à 24. Un autre volontaire qui veut lire la suite des versets 22-24? Paul? OK. Dieu est en train de confirmer cet appel-là qu'il est en train de faire à son héros. Et Dieu fortifie les sentiments de Gédéon. Quand Gédéon a réalisé que Dieu a accueilli son offrande, quand Gédéon a réalisé qu'il vient de rencontrer Dieu, c'était quoi sa réaction? Malheur à moi. Il a eu peur. Pourquoi? Moi, il me semble, je sais pas, là, je dis ça spontanément, j'ai pas rencontré l'ange de l'Éternel encore devant moi, là. Je crois que j'ai Dieu en moi. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu peur? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet élément de crainte-là importante que d'avoir rencontré Dieu face à face? Ouais, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est Exode, tu viens de citer? Je sais pas moi non plus exactement. Ouais. Et Gédéon vient de voir Dieu. Il croyait qu'il allait mourir. Pourquoi l'homme ne peut voir Dieu et vivre? Pourquoi l'homme ne peut pas être en présence face à face avec Dieu puis rester en vie comme si de rien n'était, selon le verset qui est cité? Dieu est pur. Dieu est saint. OK? Dieu est trois fois saint. Dieu, il est glorieux. Et j'imagine juste sa gloire devant moi m'emmène à m'emmènerait à la mort. Et cette réalisation-là de mon péché, je cherche mes mots, là, j'ai écrit des mots, là, puis je veux les dire comme il faut. De mon péché, de mon indignité, de mon impureté devant Dieu qui est devant moi face à face, mais me condamnerait. Puis en même temps, Dieu n'a pas fait mourir Gédéon. Et il a eu peur d'avoir vu face à face son Dieu, mais en même temps, Dieu le laissait en vie. On va le citer. Allez dans Ésaïe 6. Cette même idée-là encore de rencontrer Dieu. Et une autre personne qui voudrait lire pour un texte du Nouveau Testament, Marc 4, 35 à 41. Quelqu'un qui va juste le lire, puis on pourra l'écouter. Marc 4. 35 et 41. Les autres, on va tourner dans Ésaïe 6. Quelqu'un qui veut lire Marc 4? OK, René. 35 à 41 pour Marc 4. OK, tournez dans Ésaïe 6. On va lire les versets 1 à 5. Ésaïe, il y a cette vision-là de voir Dieu. face à face. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ça révèle justement cet aspect-là de Ésaïe qui réalise devant la sainteté de Dieu, malheur à moi. Je suis perdu parce que je suis un homme pécheur. À cause de mon indignité, à cause de mon impureté des lèvres, je suis dans un peuple aussi qui a les lèvres impures. Et encore là, on prêche pas sur Ésaïe ce soir, là, mais on voit encore l'amour que Dieu a de vouloir accueillir quand même et d'apporter ce tison-là qui vient purifier les lèvres d'Ésaïe. Et on a un exemple pour Jésus aussi qui est dans Marc. Est-ce que tu veux lire, René, Marc 4, 35 et 41? C'est un exemple que je voulais tirer du Nouveau Testament où ce que l'exemple de sainteté n'est pas nécessairement aussi évident, mais du moins de la puissance de Dieu, où ce que les disciples sont dans la barque et puis ils ont peur parce qu'il y a une tempête. Mais la peur qu'ils sont en train de vivre dans la barque est différente de quand que Jésus se lève, calme le vent, la tempête, la mer, et là tout à coup il leur pose la question « Où est votre foi? » Pourquoi est-ce que vous avez peur pour des choses qui vous inquiètent comme ça sur la terre? Et les disciples qui regardaient Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme émotion à ce moment-là? Une grande frayeur, une grande crainte de Dieu. C'est qui cette personne qui a le pouvoir sur la mer de calmer le vent, la tempête? Et quand on se trouve devant Dieu, il y a ce profond respect-là. Et en même temps, à travers même cet exemple-là que l'on a dans le Nouveau Testament, cet encouragement-là que Dieu nous donne de où est notre foi, même à travers ces tempêtes. Où était la foi de Gédéon? Gédéon, son courage est en train de grandir. Dieu est en train de le fortifier, est en train de le remplir. Mais sa foi, Dieu l'a rempli justement en accueillant son offrande. Et regardez la suite, juste verset 22. Voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit « Malheur à moi », un peu comme on a entendu tantôt d'Ésaïe, « Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Tu ne mourras pas. Dieu avait rassuré Gédéon. Quel sentiment est-ce que Gédéon a eu après la disparition visuelle, du moins, de l'ange de l'Éternel? Quel sentiment il lui est resté? L'adorer. Quoi d'autre aussi? Il y a eu de la crainte, mais Dieu est venu le calmer. Et il lui a dit, « Sois en paix, tu ne mourras pas. » Tu mourras pas. Et Gédéon est allé bâtir un autel. Et comment est-ce qu'il l'a surnommé? L'Éternelle paix. Dieu venait d'enrôler Gédéon pour aller à la guerre. Et le sentiment qui lui reste, c'est la paix en Dieu. La paix que Dieu venait de lui accorder, de l'avoir rencontré, mais aussi d'avoir cette paix-là profonde que Dieu m'envoie, Dieu m'accompagne, Dieu vient de me parler, puis vient de me confirmer son message. OK, on continue la suite à partir du verset 25. On va voir le Dieu a confirmé l'appel du héros et Dieu va maintenant préparer un petit camp d'entraînement pour le héros, pour le commencer à lui faire faire quelques techniques de combat spirituel pour devenir justement un héros. Quelqu'un veut lire les versets 25 et 26? Serge. OK. Quelque chose d'important, quelque chose qui demande beaucoup de courage, je pense. Et quel défi est-ce que ça demandait? Quel défi cela impliquait à Gédéon? Pourquoi ça lui demandait du courage, ce que Dieu venait de lui demander? D'aller contre... Ouais. 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 Son père lui-même a un autel qui n'est pas à l'Éternel, qui est à Baal, et Dieu lui dit, renverse l'autel de ton père, l'idole qui est déçue, et on dit pieux sacré, mais l'idole qui est déçue, qui est en bois, renverse-le, et puis bâtis par-dessus un autel qui va être à l'Éternel, puis offre un holocauste. Quel défi ça demandait pour Gédéon de faire ça? Quelle difficulté il pouvait être confronté? Il pouvait se faire puncher par les grands frères. Ouais. OK. D'aller contre la volonté de son père. Est-ce que ça devait lui demander du courage? Ouais. Ça devait lui demander beaucoup de courage. Et pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Gédéon? Qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Gédéon? Qu'est-ce que Dieu veut apprendre peut-être aussi au peuple? Un apprentissage, un enseignement qui va faire des petits de fil en aiguille. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Gédéon? Obéir à Dieu? De lui obéir? Ouais. Quoi d'autre aussi? D'affirmer sa foi? Affirmer? Ouais. Alors qu'il puisse lui-même déjà mettre en œuvre cette foi-là qu'il a et par des actions qui lui coûtaient des choses qui lui demandaient beaucoup de courage, il pouvait affirmer. C'est ce que tu as dit, affirmer sa foi ou ce qu'il pouvait le dire. Ça s'est fait peut-être pas tout de suite au grand jour, mais on va voir la suite de l'histoire. Mais qu'est-ce que Dieu vient apprendre à Gédéon? D'autres éléments qui vous viennent en tête? Oui. Oui. Dieu, je crois qu'il veut apprendre. Je crois que Gédéon sait déjà qui est l'Éternel. Il y a une rencontre personnelle avec lui. Mais Dieu va faire connaître son nom ou reconnaître son nom. Et Dieu va montrer que c'est lui le seul vrai Dieu. Dieu va montrer que c'est lui l'Éternel et qu'il n'y a pas d'autel qui va s'élever au-dessus de son autel. Et c'est pour ça qu'il a demandé ça à Gédéon. Et Gédéon, ça devait demander beaucoup de courage, comme on disait tantôt, de renverser l'autel de son père, qui était peut-être prêtre pour Baal, je ne sais pas, et qui est de renverser l'autel et de construire un autel à l'Éternel par-dessus. Qu'est-ce qu'il voulait lui enseigner? Mais je crois que Dieu voulait lui montrer l'occasion de transformer un lieu d'idolâtrie en un lieu d'adoration du Dieu vivant, un endroit où les gens allaient comprendre que c'est Dieu qui est vivant, l'Éternel. Le bois des idoles ne sert qu'à brûler. C'est ça que ça sert, une idole. Ça sert à brûler. Et en fait, on a des psaumes sur ça. On aurait pu lire le psaume 115. Mais le bois des idoles, on se prend un bout de bois, on le taille, on se fait une image avec. Avec le reste du bois, on chauffe. Et puis, c'est aussi ridicule que ça, finalement. Et Dieu va utiliser le bois de cette idole-là pour faire l'holocauste du taureau que Gédéon va mettre dessus. C'est à ça qu'elle a servi, l'idole. Et comment? Ouais, c'est ça, il y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Sans trop vouloir être allégorique aussi, c'est intéressant que Dieu a demandé deux taureaux, un jeune, puis un taureau de 7 ans. Et je veux pas trop pousser loin, là, je suis pas trop à l'aise avec les allégories, mais je crois qu'il y a peut-être un élément là-dedans où ce que ça fait 7 ans qu'ils sont dans l'oppression par les Madianites. Ça fait 7 ans qu'il crie, peut-être qu'il soupire après cette liberté-là, et c'est le taureau que Dieu va demander de placer sur son autel, qu'il va demander à Gédéon plus tard. Mais est-ce que c'était le signe de la fin d'un esclavage, de montrer que maintenant, c'est les offrandes à l'Éternel qu'on va offrir? Il y a 7 ans maintenant qui sont révolus, et maintenant, c'est la liberté que l'on va vivre à cause qu'on va revenir à l'Éternel, parce qu'on va lui offrir ses sacrifices comme il veut. OK, on continue les versets 27 à 29. Un autre volontaire. Alain. OK. Comment était le courage de Gédéon? Dieu lui dit, Gédéon, va renverser l'autel de ton père, abat le pieu sacré, emmène 2 taureaux avec toi. Le taureau de 7 ans, tu vas le second taureau, tu vas le placer sur l'autel que tu vas m'offrir en holocauste. Et puis là, Gédéon, il s'avance avec la force qu'il a. Et comment est-ce qu'il se présente? Et comment est-ce qu'il fait ça en œuvre? De nuit! Il fait ça de nuit. On peut pas tirer des roches à Gédéon. On ne peut pas tirer des roches à Gédéon, mais il a trouvé un bon moyen de faire ce que Dieu lui demandait sans chercher non plus trop rapidement le trouble. Comment t'as-tu ça? Ça te fait briller, oui. C'est ça. Et Gédéon, c'est ce qu'il est allé faire. Parce, regardez verset 27. Gédéon prit 10 hommes et il s'est pris des gens avec lui parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Est-ce que Gédéon avait obéi à Dieu? Oui, il avait obéi à Dieu. Ça dit que Gédéon fit tout ce que Dieu lui avait demandé et il l'a fait. Les gens, de bon matin, on voit que le soleil est peut-être à peine levé de ce qu'on va voir tantôt. Là, le jour n'était même pas levé. Et les gens, de bon matin, se lèvent. Les gens commencent à prendre leur marche. Puis l'autel de Baal est renversé. On a un nouvel autel de construit par-dessus, puis il y a un holocauste dessus qui est offert à l'Éternel. C'est quoi la réaction des gens? Quelle est la réaction de la ville? Ils cherchent le coupable. C'est qui a fait ça? Ils font des recherches et ils se rendent compte que finalement, c'est le fils de Joas qui a fait ça. C'est Gédéon. Le fils de celui qui appartenait à l'autel a renversé cet autel-là. Verset 29, ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » On va continuer de lire les versets 30 à 32. Dieu est en train de préparer Gédéon avec des petites choses. Et ce n'était pas nécessairement une petite chose, mais il lui donne l'occasion d'affirmer sa foi. Avec ce qui s'en venait, il y avait une victoire nationale qui était imminente. Il allait avoir plusieurs tribus qui allaient être derrière lui, mais Gédéon a commencé avec de la fidélité dans les petites choses. Et quelque chose qui probablement venait le toucher, peut-être même dans ses relations, dans ses sentiments, dans quelque chose qui lui demandait beaucoup de courage. Et Dieu lui a confié une petite tâche. Et il l'accomplit avec fidélité. Il y a une grande tâche qui s'en vient pour Gédéon, qui est d'être le libérateur, qui est d'être le juge d'Israël. Mais Dieu a commencé avec une petite tâche. Dieu a voulu former son héros en lui donnant l'occasion de prendre position publiquement, même si c'était de nuit, mais l'occasion de prendre position publiquement s'en venait. Une pleine allégeance à l'Éternel, où ce que Dieu voulait voir son futur héros, de dire, je vais abattre les idoles, je vais faire tomber ces idoles-là, pour finalement honorer l'Éternel. Et Dieu voulait voir une pleine allégeance chez Gédéon. Puis Gédéon transigeait tranquillement entre la crainte de Dieu, entre la crainte des hommes et celle de Dieu. Il est en train de prendre des forces. Il est en train de prendre du courage. Et puis en obéissant à la parole de l'Éternel, il est en train de faire des pas pour dire, je me détache de ce que doit être la crainte des hommes pour craindre l'Éternel, pour ce que Dieu me demande. Et on va voir la réponse de qu'est-ce qui s'est passé après? Le père, qu'est-ce qu'il a répondu? Un volontaire qui veut lire 30 à 32. Joanie. OK. Les gens, ils vont trouver le propriétaire de l'hôtel et puis lui disent fais sortir ton fils et puis qu'il meure parce qu'il a renversé l'hôtel de Baal et abattu le pieu sacré qui est dessus. Et là, Joas répond quelque chose. Comment est-ce que vous trouvez la réponse du père de Gédéon? Qu'est-ce qu'il a répondu et comment trouvez-vous sa réponse? Oui, Céline? Excellente! Ouais, une excellente réponse. Comment trouver? Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. On ne s'en serait peut-être pas attendu à ça. Mais il a l'air d'avoir un homme sage malgré ça, malgré son idolâtrie. Il a l'air à revenir à la raison. Oui, Yvan. Oui. Bon débarras. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être que lui-même avait la crainte des hommes aussi. J'ai vu René après ça, Jacinthe. Ouais. 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 C'est ça. Ouais. 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 Et ouais. Et surtout, c'est ça. Et probablement que, justement, cet appui-là familial s'en vient vers Gédéon, que Dieu est en train de le fortifier. Je ne vais pas trop vite tout ce que tu veux dire, Jacinthe, mais il ne s'est pas passé non plus 40 ans où ce qu'ils ont été dans l'oppression, c'est 7 ans. Le père de Gédéon, il a connu la paix 7 ans passés du fait qu'il était justement en paix à cause de l'obéissance. Et là, il s'est passé 7 ans où, à un moment donné, il y a eu une dérape. Et puis, c'est peut-être pas si loin que ça dans la tête de Joas. Oui, Jacinthe. Ouais. Et Dieu est en train comme tu dis, je crois que Dieu est en train de préparer le cœur de son père aussi. Je crois qu'il a un mouvement de recul, du moins si c'est pas en prenant position directement pour l'Éternel, il ne prend pas position pour Baal et qu'il se défende tout seul d'abord. Et on voit que Dieu est en train de transformer l'entourage de Gédéon. On voit manifestement que Dieu accompagne Gédéon, que Dieu protège Gédéon et que personne ne lui a fait du mal et que tranquillement, ce héros-là, des gens voient sa foi en lui, puis se collent à lui, puis commencent à le suivre parce que c'est un homme qui a décidé de suivre l'Éternel. Et puis, excusez, je ne vais juste pas retrouver dans mes feuilles, là. C'est ça. Ils ont donné un nouveau nom. Comment est-ce qu'il s'appelait maintenant? Jérubal. Que Baal se défende tout seul. Est-ce que ça veut dire, bref, à peu près le nom de Gédéon? Ben que si Baal est un dieu, comme Gédéon le disait, comme le père de Gédéon disait, mais qu'il se défende, qu'il se fasse justice lui-même. Et vous savez ce qui est beau dans ce nom-là que Gédéon portait maintenant, c'est que sa vie témoigne de l'inertie de Baal. Parce que jamais que Baal a rendu justice de son autel qui a été renversé. Et tant que Gédéon vit, on voit manifestement par sa vie que Baal n'existe pas, puisqu'il ne s'est jamais rendu justice. Et Dieu est en train de d'élever dans un sens Gédéon, comme il l'a fait avec Josué, peut-être aux yeux de ses proches et tranquillement aux yeux du peuple aussi. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est déjà 50. J'aimerais qu'on termine, peut-être tourner dans le psaume 115, qu'on termine sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vrai. On va terminer la suite de l'histoire de ce qui s'est passé la prochaine fois que je vais prêcher. Mais le psaume 115 témoigne de ce que les idoles sont versus ce que Dieu est. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'or, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et parlent pas. Ils ont des yeux puis ils voient pas. Elles ont des oreilles, n'entendent point. Elles ont un nez, ne sentent point. Elles ont des mains, ne touchent point. Des pieds, ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui sont confiés en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant, il n'y a jamais loué l'Éternel. Déjà un premier revers pour Baal et une première prise de position pour l'Éternel. Baal n'existe pas. Il est néant. Il est inerte. Dieu est vivant et Dieu s'apprête à délivrer son peuple. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer. Tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu saint. Seigneur, tu te révèles à nous par tes Écritures. On croit, Seigneur, que tu nous parles. On croit que tu veux transformer nos vies, que tu veux nous donner des occasions à nous aussi d'affirmer notre foi, de vivre notre foi aussi. Ça nous demande du courage, Dieu, mais en même temps, c'est bon. Ça nous fait plaisir, Seigneur. On en tire de la joie et de la paix en même temps de savoir que c'est pour toi que l'on vit. Pas pour un Dieu qui a une bouche qui ne parle pas, des oreilles qui n'entendent pas, mais tu es un Dieu qui est vivant, tu es au-devant de nous, et on croit et on sait que tu es vivant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'on te prie ces choses. Amen.